Escapade
et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapadez-vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Bienvenue dans cette émission pour la suite de nos programmes consacrés aujourd'hui aux 50 ans de la loi Veil sur la dépénalisation de l'avortement. Et on va aborder un thème qui est celui de l'éducation à la vie sexuelle et affective. Je suis en compagnie pour en parler de Cécile, Andrea et Nana de la Sexomobile. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question, ça va être, qu'est-ce que la Sexomobile ?
Et donc, la Sexomobile, c'est une association féministe qui existe depuis 2020, officiellement, et qui parle d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc ce qu'on appelle les VARS. Et en gros, depuis 2019, on était un groupe de personnes qui avaient envie de se réunir autour de ces questions-là, parce qu'on trouvait que c'était un manque en ruralité, et donc on habitait autour de Saint-Jean-du-Gard, La Salle, et on a eu envie de se former sur ces thématiques pour pouvoir intervenir auprès de divers publics, mais principalement des publics en milieu scolaire. Et pour se former, on s'est dit qu'on était assez raccord politiquement avec ce que faisait le planning familial, donc grosse asso nationale féministe aussi, et notamment en raison aussi de l'éducation populaire, parce qu'on est plusieurs personnes à venir de ce milieu-là. Et ça nous parlait, en tout cas, les méthodes de l'éducation populaire et les manières d'aborder ces sujets-là de cette manière-là. Et voilà, donc on s'est formé principalement avec le planning familial, mais pas que. Et on a décidé aussi de faire l'acquisition d'une unité mobile, donc c'est une caravane, qui s'appelle aussi la Sexomobile, et qui permet en fait de faire de l'intervention en ruralité, de pouvoir se déplacer facilement avec une bibliothèque, avec des outils pédagogiques, des jeux. Et on a aussi une personne au tout début du projet qui s'est formée en tant que conjugaire familiale, conseillère conjugale et familiale avec le planning, le planning familial. Et qui a fait même un mémoire sur l'intérêt d'une unité mobile en ruralité pour rendre plus facile d'accès, du coup, l'éducation à la vie affective et sexuelle. Et donc, nous, notre domaine d'intervention principal, c'est le milieu scolaire, mais pas que. On intervient aussi auprès de personnes qui sont en formation d'animation, qui vont être face à des publics. On intervient aussi, des fois, pour des adultes, pour des colonies de vacances. Et les principaux thèmes la manière, nous, dont on a envie de faire ces interventions, c'est de faire de la prévention, de donner accès à de l'information, de redonner du pouvoir d'agir au public qu'on a face à nous. Et voilà, et les thèmes, après, sont très variés. Mais du coup, on parle de consentement, d'anatomie, de contraception, de stéréotypes de genre, de discrimination, de plaisir, de pratiques sexuelles, voilà. Et selon les tranches d'âge, évidemment, on n'aborde pas les mêmes thématiques et pas de la même manière. Voilà, et qu'est-ce que je peux dire ? Ah oui, on est toutes bénévoles, donc c'est pas une association employeuse, c'est vraiment, on fait ça bénévolement. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ?
Alors moi, j'aurais une petite question, donc c'est une unité mobile, donc, par principe, vous vous déplacez pour donner ces interventions, mais sur le territoire, votre champ, vous allez jusqu'où ? Vous êtes là, dans le coin, évidemment, sur notre territoire, mais on dirait un peu plus là-dessus.
En fait, il y a un planning familial à Alès, donc on essaye de faire en fonction aussi des zones d'intervention des autres associations qui sont dans le coin. Nous, on est vraiment plutôt sur ce qu'on appelle le Piémont-Sévenol. Donc, dès qu'on se rapproche d'Alès, c'est plus nos lieux d'intervention. Et on intervient plutôt justement dans ce qu'on peut appeler les petits villages du coin. Donc, on intervient à Saint-Jean-du-Gard, à la salle, on est déjà intervenu à Saint-Hippolyte-du-Fort, enfin à côté, à Scolae.
À Quissac.
Et puis aussi, des fois, ça dépend aussi des demandes qu'on a et de si on n'a pas l'impression que ça va... On va manger sur le territoire des autres associations. Enfin, des fois, on se concerte aussi avec le planning familial d'Alès. Et par exemple, on est déjà intervenu à Vézénobre, parce qu'on a eu une demande spécifique d'un lycée agricole. Voilà. Et des fois, on peut aller un peu plus loin, pas forcément avec la caravane, puisque c'est quand même une sacrée logistique, mais on est déjà allé dans les gorges du Tarn, sur des séjours de vacances, en Lozère, du coup. Donc ça dépend plutôt des demandes, mais on essaye de se concentrer sur notre zone aussi d'habitation, qui est plutôt Saint-Jean-du-Gard-la-Salle.
D'accord. Alors, on va aborder maintenant le vaste thème donc, de ce que c'est que l'éducation à la vie sexuelle et affective, tout d'abord, sur ce que disent les textes, ce que dit le gouvernement ou les gouvernements qui se sont succédés, sur l'importance... qui serait accordé ou pas, on vous le verra après, à cette éducation. Donc il y a un cadre légal, puisqu'il y a une loi qui porte le nom de loi Aubry, qui a été adoptée en 2001, qui fait de l'éducation à la sexualité en milieu scolaire une obligation. L'éducation à la vie à la vie affective, relationnelle et sexuelle, donc on appelle EVARS pour l'acronyme qui reviendra peut-être dans l'émission. Donc c'est une éducation à une citoyenneté complète, promouvant des relations affectives saines, l'impératif de consentement, la reconnaissance des orientations sexuelles et des minorités de genre et la lutte contre les inégalités. Elle est en particulier un moyen de prévenir et combattre les violences et l'exploitation sexuelle des mineurs. Et elle a également pour objectif de promouvoir la santé sexuelle, comprise comme étant, selon l'OMS, un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social en matière de sexualité, et non pas simplement l'absence de maladie, de dysfonctionnement ou d'infirmité. Alors ça, c'est pour poser un peu le cadre légal. Dans ses principes directeurs internationaux pour une éducation à la sexualité, l'UNESCO vise à permettre aux individus de faire des choix libres sur la base d'une éducation scientifiquement exacte, selon les ressources culturelles adaptées à l'âge, au niveau de développement, fondées sur l'égalité des genres et en appui des droits humains. Donc voilà le cadre général. Ensuite, en France, il y a un objectif qui a été fixé par les politiques nationales de santé sexuelle sur une période 2017-2030. Et ce qui est constaté, c'est si 100% des jeunes devaient avoir une éducation de qualité en 2023 à cette vie sexuelle et affective, on voit que cette loi, en fait, elle reste largement inappliquée, c'est-à-dire que ces séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, c'est bien sur le papier, mais dans la réalité, c'est pas toujours fait et c'est plus complexe. Alors, je voudrais déjà que vous réagissiez à ce constat.
Oui, effectivement, on fait le triste constat que ça n'a pas lieu dans la grande partie des établissements scolaires. Ce qui est préconisé, c'est 3 séances par an. Enfin, le droit des enfants et la loi demandent à ce que ça soit fait. Mais ce n'est pas le cas. Heureusement, il y en a. Mais...
Et ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas le cas non seulement parce qu'il n'y a pas de moyens pour faire venir des structures, mais aussi les instits, les profs, ils se le sentent pas, ils maîtrisent pas le sujet parce qu'ils peuvent le faire. Certains d'ailleurs le font, mais c'est très rare. Et d'ailleurs, c'est difficile à mesurer ceux qui le font, ceux qui le font pas. Mais majoritairement, clairement, c'est pas appliqué. On le demande simplement aux jeunes en début de séance. S'ils ont eu une séance vaguement dans leur scolarité, ils s'en souviennent à peine, quoi.
Parce que les textes disent également que cette éducation, en fait, doit impliquer tous les personnels de l'établissement, que ce n'est pas une discipline spécifique, et donc différents enseignants de différentes disciplines, chacun à leur manière, peuvent intervenir. Mais ils n'ont pas forcément les outils ou ils ont aussi des réticences. Parce que une autre question que je voulais vous poser, c'est comment vous, on vous contacte pour que vous fassiez ces interventions et comment vous êtes accueillis ?
Alors nous, ceux qui nous contactent, évidemment, c'est ceux qui sont favorables à mettre en place ce type d'intervention. Donc dans ces cas-là, souvent, ça va être des directeurs, directrices d'établissement ou des professeurs qui sont impliqués, qui sentent le besoin d'intervenir, en fait. Souvent, ils nous expliquent que dans la classe, il y a des soucis entre les garçons et les filles, entre des questions d'attouchement, enfin... Ils partent de problématiques réelles et ils font appel à nous parce qu'ils sont un peu démunis. Donc voilà, ceux qui nous font venir, ils s'accrochent un peu, ils essayent de trouver un peu des financements. Des fois, ils n'en obtiennent pas du tout. Voilà, souvent, ils ont besoin d'aide et ils sont favorables. Et après, bien sûr, en parallèle de ça, il y a ceux qui sont réticents, voire réfractaires. Et donc là, ça va être leurs collègues à ces personnes. Donc, ils ont de vrais freins à mettre en place les séances parce qu'ils ont des collègues qui veulent pas, quoi. Et on a aussi, évidemment, les parents. Donc, soit ils ont la crainte des parents, soit il y a vraiment des parents qui expriment des réticences. Et ce qui est un peu particulier, ce que nous, on a noté quand même, c'est que c'est rarement une réticence en direct, c'est-à-dire qu'on vient rarement nous voir directement pour nous dire que ça convient pas. On dit rien, mais on sent cette réticence. Donc, par exemple, pour la situation des parents, ça arrive qu'on ait des lettres après coup, mais jamais de rendez-vous en face à face pour s'expliquer. Et dans les lettres, il y a souvent des mésinterprétations, évidemment. Et pareil pour les personnels, donc ceux qui sont réticents, simplement, ils ne nous disent pas bonjour, ils ne nous... voit pas. Et si, pour donner un petit exemple, la dernière fois qu'on est intervenu dans un établissement, y avait du personnel clairement réticent, ils disent pas bonjour, on demande dans quelle salle on est, c'est à peine s'ils nous montrent une salle, il n'y a pas assez de chaises, on demande d'obtenir des chaises pour et nous répondent simplement même pas où sont les chaises, quoi. Donc par contre, ils vont jamais nous dire qu'ils sont pas d'accord avec le fait qu'on intervienne sur ces thématiques-là, ni pourquoi... Donc voilà, on a clairement une réticence globale sur ces séances, quoi.
Et il y a aussi des parents qui... Enfin, vu que c'est une obligation quand même de la part de l'établissement d'informer les familles que ces interventions vont avoir lieu, il y a aussi des parents qui ne mettent pas leurs enfants à l'école ce jour-là. Ouais. Voilà, c'est déjà arrivé qu'on capte qu'il y avait des absences et que c'était probablement lié à cette réticence-là.
Et dans les retours qui vous sont faits, comme tu disais, Cécile, par exemple, un courrier par la suite, qu'est-ce qui vous est reproché dans ces cas-là ?
Qu'est-ce qui nous est reproché ? Souvent, quand même, il y a de la... Enfin, ça dépend des types de courriers. On en a eu plutôt sur... je pense que c'était des parents qui étaient inquiets, qui voulaient savoir plus en détail ce qu'on faisait, qui exigeaient d'avoir le détail des contenus... je pense qu'il y avait un manque de confiance. Bon, ça encore, on peut y répondre assez facilement, on peut comprendre, on peut rassurer. Puis après, il y a des parents qui interprètent complètement qu'on va parler des propos complètement absurdes, qu'on va faire imposer à leur enfant de changer de sexe, enfin, je sais pas, des délires un peu d'actualité, là. C'est quand même plutôt rare.
Ou qui pensent aussi qu'on va parler de position sexuelle ou des choses comme ça, alors que c'est pas comme ça qu'on aborde les choses.
D'accord, donc c'est aussi parce qu'ils sont pris dans une désinformation ou dans des fantasmes, quoi.
Des fantasmes, des craintes. Voilà. Après, c'est pas non plus la majorité, ça existe, c'est présent, on le ressent. Il y a aussi beaucoup de gens qui nous remercient, qui trouvent ça important ce qu'on fait.
Voilà, j'allais dire, il y a aussi des retours positifs.
Oui, plus positifs que négatifs, d'ailleurs.
Oui.
Mais d'ailleurs, sur ces réactions, des fois, quand on prend le temps d'en parler avec les parents, en fait, on comprend que c'est parce que c'est tabou, parce que c'est de la désinformation, comme tu disais, et qu'en fait, en leur expliquant qu'est-ce qu'on aborde comme sujet, à quel âge, ça fait direct redescendre les craintes des parents. Parce qu'en fait, évidemment, comme disait Nana, on ne parle pas de tous les sujets pour toutes les tranches d'âge. Et en fait, parler de consentement, par exemple, à n'importe quel âge, ça permet justement de donner du pouvoir d'agir à leurs enfants. Et du coup, souvent, ça les rassure quand on présente les choses comme ça.
D'accord. On parlera plus en détail par la suite des interventions par âge, que ce soit au primaire, au collège, au lycée. Mais déjà, je voulais vous demander, parce que là, on a demandé, vous avez parlé des réactions des personnels ou des parents, mais les premiers concernés, qui sont les enfants, comment ils vous accueillent ?
Oui, bah alors les enfants, bah là, voilà, on a beaucoup de positifs et là, on sent vraiment que nos interventions sont utiles et chouettes. C'est-à-dire que les enfants, souvent, au départ, il y a quand même une vraie gêne et une vraie timidité sur ces sujets-là. Et des fois, ça prend un peu du temps avant qu'ils soient à l'aise quoi, pour pouvoir parler de ces sujets. Par contre, une fois que la confiance est posée et qu'ils sont à l'aise, là, il y a vraiment énormément de curiosité. Ils ont plein de questions qui sont adaptées à leur âge, qui sont voilà, et ils sont hyper contents. Et surtout, nous, on sent que c'est hyper utile. C'est-à-dire que les questions qu'ils nous posent, on se dit « Oulala, bah heureusement qu'on est là pour y répondre correctement ». Souvent, ça fait un peu cet effet-là. Et j'allais dire aussi, on intervient un peu aussi auprès d'adultes. Et c'est quand même... bon, évidemment, c'est pas la même chose, mais il y a quand même le même effet. C'est-à-dire que les adultes sont souvent très agréablement surpris si on fait vraiment une intervention de tout ce qu'ils ont appris. Il y en a plein qui nous disent « Oh là là, moi je pensais tout savoir et en fait j'en apprends encore à mon âge ». Donc rien que quand on a fait des stands sur les marchés, ça nous arrivait de faire des petits stands de sensibilisation sur des marchés. Et du coup, on sortait notre cabinet de curiosité et les gens posaient des questions et on répondait. Ils disaient « Ah ouais ». Enfin, ils étaient très agréablement surpris, quoi. Donc voilà, une fois cette timidité, cette gêne passée, une fois qu'on a posé, qu'on a rassuré, qu'on a expliqué comment on allait s'y prendre, quels mots on allait utiliser, comment on avait le droit de tout dire, mais voilà, de poser les questions et de répondre simplement avec des mots sans tabou, après, ça devient vraiment riche comme intervention, quoi.
Voire même, on a quand même aussi des enfants, des adultes qui viennent nous parler de choses très intimes à la fin, voire même on a eu des témoignages d'agressions sexuelles, des choses comme ça qui ressortent. Donc pour moi, ça montre qu'effectivement, il y a un climat de confiance qui est instauré au cours de la séance et voire même jusqu'à effectivement des partages de choses très intimes. Donc je trouve que c'est utile. Enfin, vraiment, on est contente à la fin de voir qu'il y a du sens, quoi.
Voilà. Et d'ailleurs, le mieux, c'est quand on revient. Quand on revient, oui. Soit d'une année sur l'autre dans l'établissement, ils nous connaissent, soit quand on fait 3 séances d'affilée, là, il y a vraiment quelque chose qui change, quoi.
D'accord. Eh bien, avant d'en venir un petit peu au détail de votre travail, de comment s'organisent concrètement ces séances et ces interventions, on va se faire une petite pause musicale avec Rebel Girl de Bikini Kill. C'est un choix que vous avez fait, d'Andrea.
Girl!
Vous êtes toujours sur Radio Escapade, sur le 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 103.3 à Ganges, au Vigan et alentour, et sur le 102.0 à La Salle, et enfin le .org pour le reste du monde. Nous sommes toujours, je suis toujours en compagnie d'Andrea, de Cécile et de Nana de la Sexo Mobile pour parler donc d'éducation à la sexualité, à la vie affective. Donc, on va parler maintenant, plus concrètement, de vos interventions, donc en milieu scolaire, principalement. Alors, en sachant que les programmes de vie sexuelle et affective commencent dès l'école primaire et ensuite se poursuivent au collège et au lycée, en tout cas dans les textes, et évidemment avec des programmes différents selon les âges. Est-ce que vous voulez développer ce sujet ?
Vas-y,
j'y vais. J'y vais. Okay.
Oui, et ben, on le disait un petit peu juste avant, mais donc on n'aborde pas les mêmes sujets selon les classes et les tranches d'âge. Et bon, par contre, quelque chose qui est un peu transversal à toutes les tranches d'âge, c'est de parler de consentement, évidemment, parce que le consentement, c'est pas forcément lié à des pratiques sexuelles. C'est en fait dès le plus jeune âge d'être capable de dire non ou de comprendre qu'est-ce qu'un oui, qu'est-ce qu'un non, ça nous semble indispensable. Du coup, ça, c'est quand même une thématique qu'on aborde à l'école primaire, au collège et au lycée, évidemment. Et ensuite, ça va dépendre des fois des besoins des établissements scolaires. Des fois, on va nous demander d'intervenir sur des thématiques un peu plus spécifiques. Et nous, en général, quand on prépare une séance d'intervention, on va se réunir avant avec les personnes qui interviennent et on va faire un déroulé d'intervention qu'on envoie à l'établissement pour que ça soit validé avec l'établissement scolaire. Et on adore utiliser des méthodes ludiques, des méthodes d'éducation populaire qui fait qu'en fait, on ne va pas être sur un cours descendant magistral. L'information va venir des jeunes, des enfants, de leurs questions, de ce qu'ils et elles connaissent. Et voilà, donc souvent, c'est souvent des jeux, c'est souvent des débats. Des fois, une animation qu'on aime beaucoup, c'est la boîte à questions. Donc, pas forcément en première animation pendant une intervention, mais souvent, après avoir un peu abordé différents sujets, on leur propose d'écrire leurs questions. Ça peut être très varié sur toutes les thématiques. Et après, on prend le temps de faire de la recherche, de discuter, d'échanger et d'essayer de répondre à ces questions. Et souvent, c'est d'ailleurs la réponse, elle vient pas forcément de nous directement, mais des enfants et des jeunes. Et voilà, et après, nous, on a plein de docs, on a des bouquins, on a des BD, on a des brochures qui parlent de plein de sujets. Et on leur donne accès, évidemment, à ces documentations-là, qui sont différentes aussi selon les tranches d'âge. On parle aussi pas mal de stéréotypes de genre. Ça, c'est un truc qu'on nous demande souvent d'intervenir là-dessus, peu importe les tranches d'âge, parce que c'est très marqué à l'école. Le fait qu'il y a les filles d'un côté, les garçons de l'autre, que souvent il y a des conflits internes au groupe. Et voilà, donc on essaye aussi d'aborder ces sujets-là, ça nous tient à cœur.
Vous voulez rajouter sur les internes ?
Le harcèlement aussi, ouais. Enfin dans les sujets qu'on aborde, mais ça, oui. Effectivement, peut y avoir pas mal, souvent dans les cours de récréation, des conflits comme ça, voire même du harcèlement. Donc. Ça fait partie des questions qu'on peut avoir. Et après, bon, là, on est sur le primaire, c'est ça. Donc, on se limite à des choses comme... Au primaire aussi, on parle de l'anatomie. On l'a pas dit encore, mais quelle partie du corps sont les parties intimes pour qu'ils sachent, au niveau de l'information, qu'ils soient bien au courant de quelle partie... sont les parties considérées comme les parties intimes, à la fois ce que eux-mêmes considèrent comme parties intimes et les parties intimes dans la loi, quelles sont-elles, les personnes de confiance, on les invite à nommer les personnes de confiance à qui ils pourraient parler de ces choses-là. C'est pas forcément les personnes les plus proches, ça peut être dans le contexte scolaire qui ils ont le droit, qui peuvent, qui veulent, à qui ils veulent parler. Voilà, on les invite surtout en fait à parler quoi. C'est un des objectifs quand même, c'est de leur permettre de déployer les questions qu'ils peuvent avoir autour de ces sujets-là, qui sont souvent tabous, et voilà, à travers des jeux, etc., et des histoires qu'on peut leur lire quand ils sont tout petits, des marionnettes, on propose des choses comme ça.
Voilà, et aussi de répondre à leurs interrogations, parce que pour qu'ils aient une information juste et adaptée à leur âge. Voilà, on ne répond pas forcément la même chose à quelqu'un de 4 ans et à quelqu'un de 14, selon les questions.
Par contre, notre choix, c'est de répondre quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que même si nos interventions, on ne va pas parler de contraception à des maternelles, évidemment. Mais par contre, si des maternelles ou des primaires nous posent une question, on a déjà eu, on en discutait avant de venir sur l'avortement, on a eu une fois une question en primaire, qu'est-ce que c'est avorter je me rappelais parce que j'étais avec Andrea qui avait répondu pour moi de manière très simple, avec des mots adaptés. Voilà, j'avais trouvé que c'était une très bonne réponse, c'était fluide et on avait répondu à la question de l'enfant, quoi, voilà.
Ouais, ça, aucune question n'est tabou, a priori. Après, c'est le mode de réponse qui est adapté.
Et d'ailleurs, on défend vraiment beaucoup cette idée qu'on n'a pas envie de rajouter du tabou sur le tabou. Et donc, par exemple, en anatomie, nommer vraiment les parties du corps par des vrais mots plutôt que par des mots qui sont empreints de gêne ou de tabou, c'est hyper important. Et d'ailleurs, le nom de la sexomobile, on nous a déjà fait la remarque qu'en milieu scolaire, ça passait pas trop. Donc on a déjà réfléchi à changer notre nom pour accéder plus facilement à certains espaces. Et en fait, quand même, on défend le fait que c'est pas parce qu'il y a le mot « sexe » dedans qu'on parle que de pratiques sexuelles à toutes les tranches d'âge et qu'en fait, parler de la sexualité, pour nous, c'est très vaste et c'est, justement, on n'a pas envie que ce soit tabou.
Donc on garde ce nom, sexomobile.
Pour l'instant, en tout cas, c'est un vaste débat.
Et j'aurais envie de dire quelque chose par rapport à ça, c'est qu'on a observé plusieurs fois aussi que c'est compliqué de parler de plaisir. Et c'est quelque chose qu'on relègue toujours un peu en dernier, parce que voilà, on nous demande de parler de stéréotypes de genre, de consentement, de prévention aux violences sexuelles, etc. Mais voilà, on met pas assez à l'honneur le plaisir et je pense que ça serait intéressant en tout cas, ça nous tient à cœur aussi de quand on a le temps de développer ça, d'aborder ces questions-là. Pas à tout âge non plus forcément, mais de toute façon, c'est voilà, on rebondit sur les questions qui nous sont posées, quoi.
Alors bon, là, on a parlé d'une manière un peu générale, un peu plus des plus petits en primaire ou maternelle même. Après les interventions au collège et en lycée, comment ça se passe ? Parce qu'il y a des thèmes qui vont être abordés, j'imagine, quand même d'information et de prévention plus directement liés à la sexualité. Je me trompe ou...
Non, tu ne te trompes pas. Souvent, en fait, moi, ce que je dirais sur les un peu plus grands, ça va être à partir de 4e, quoi, 4e, 3e et lycée. C'est pas exactement le même public dans le sens où on pourrait dire entre guillemets qu'ils ont l'impression de connaître déjà beaucoup de choses mais clairement c'est une impression. Alors ils en connaissent peut-être plus que moi en tout cas sur les réseaux ou le porno voilà, mais par contre sur la vraie information souvent ils ont vraiment des gros manques et d'ailleurs ça met un peu de temps à ce qu'on le capte, quoi. Des fois, on se rend compte vraiment à la fin des séances, quand ils posent des questions, qu'il manque cruellement d'informations. Et donc voilà, ça va dépendre un peu aussi des milieux. C'est vrai que c'est pas exactement pareil quand on intervient au lycée agricole ou dans des villes un tout petit peu plus grandes, même si on est rarement en ville.
Et pourquoi ça, tu peux préciser
Ça dépend du milieu social.
Oui, voilà, c'est ça. Oui.
Le milieu social, forcément, il va conditionner la manière dont ces sujets sont abordés, les rapports de domination au sein des familles, des genres. Comment ?
La religion aussi.
Ouais, la religion. Donc c'est vrai que c'est pas, enfin, pour stéréotyper un peu justement, c'est pas la même chose quand on est dans un lycée privé. que quand on est dans un lycée agricole ou comme disait Cécile, un lycée qui va brasser plus largement différents types de publics.
Si c'est lycée général ou vous faites des interventions dans des établissements privés par exemple qui ont.
On a déjà été à Scolae par exemple.
Ouais.
Ouais.
Bah là on a senti la différence, ouais, que c'était pas le même public, mais du coup c'est aussi super intéressant parce que il y a plein d'interviews où nous on apprend des choses et on se rend compte qu'en fait les jeunes sont hyper informés des fois trop aussi via les réseaux, mais en fait les réseaux sociaux ça permet aussi d'avoir accès à l'information. Donc selon ces jeunes-là ont accès à des comptes qui sont chouettes, qui donnent de l'information chouette, c'est positif.
Et moi je dirais, pour compléter un peu la particularité aussi peut-être du lycée, c'est qu'on commence à avoir vraiment des gros décalages d'expérience et de connaissances au sein d'une même classe. Et du coup voilà, là il y a de l'enjeu aussi à ce que ce soit pas tabou, enfin, c'est-à-dire qu'il y en a pour qui c'est encore un mystère. Et il y en a d'autres qui, quand même, commencent à avoir expérimenté pas mal de choses, à s'être posé pas mal de questions. Et donc, là aussi, c'est intéressant. Pour nous, ce qu'on essaye, c'est de créer du débat entre eux, d'enlever des tabous. Ça, c'est vraiment un peu tout le temps, d'enlever de la gêne et de pouvoir répondre à toutes les questions qu'ils ont et d'arriver à leur faire émerger les questions. Souvent, ils n'osent même pas poser leurs questions, quoi. Et donc, quand même, on essaye beaucoup, beaucoup de partir d'eux. Et d'amener de l'information, ouais, voilà.
Tu parlais d'un cabinet de curiosité tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux ce que c'est que ce cabinet de curiosité? Vous pouvez.
Ouais. Bah ouais. Donc c'est un tas d'objets qu'on a. Alors on l'utilise pas avec les primaires. C'est trop nouveau. Mais à partir du fin de collège, lycée, on pose plein d'objets sur la table. Donc il va y avoir des objets contraceptifs, comme par exemple un stérilet ou...
pilule le lendemain, ouais. Des plaquettes de pilules.
Il va y avoir aussi un sextoy, justement, ça fait souvent rigoler parce qu'on veut aussi aborder le plaisir. Et il va y avoir... Enfin, il y a vraiment de tout, quoi. Il y a une coupe d'anatomique... voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre?
Un spéculum, ouais. Pour ce qui est contraceptif.
On a des clitoris en pâte fimo.
Une cup,
oui, pour les menstruations. Des serviettes hygiéniques, des tampons, c'est déjà arrivé qu'on nous demande ce que c'est.
Et donc on étale tous ces objets et on demande, est-ce que vous connaissez ces objets, est-ce que vous savez à quoi ils servent? Et donc le jeu, selon les tranches d'âge, mais c'est d'essayer de deviner qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert. Et donc voilà, c'est là, même les adultes, il y en a plein qui ne trouvent pas tout, quoi. Et ça, c'est vraiment un super support pour discuter, quoi.
Oui, à tout âge.
Oui, ça, c'est une manière, comme tu disais tout à l'heure, de faire émerger des questions. Mm. Ça aide ces outils-là. Mm.
Bah, d'ailleurs, c'est souvent comme ça qu'on procède. On commence par faire des animations qui vont faire émerger des questions, des débats, et par exemple le cabinet de curiosité. Et ensuite, on va essayer de faire la boîte à questions, par exemple, qui va du coup leur faire émerger leurs questions que les jeunes n'auraient pas forcément osé poser en début de séance. Et du coup, le cadre qu'on pose et le déroulé d'interf permet en fait de délier la parole, d'amener des questions qu'ils et elles ne se sont jamais posées. Et, voilà. Et on a aussi systématisé un truc qui est chouette, c'est en fin de séance de demander souvent c'est quoi la pépite et c'est quoi le caillou de la séance. Donc qu'est-ce que les jeunes ont préféré et qu'est-ce qui a été moins apprécié dans l'intervention. Et souvent, dans les pépites, on a la phrase de « j'ai appris plein de trucs et je pensais pas que ce serait facile d'en parler. Enfin, que j'oserais poser des questions et que j'allais apprendre autant de trucs. » Donc ça, c'est chouette, puisque c'est un peu quand même notre objectif à travers ces interventions.
Et alors, j'avais une question aussi. Donc les interventions sont en groupe, voilà, mixte. Et... Alors, il me semble, mais peut-être que je me trompe, là encore, il y a aussi la possibilité ensuite de se balader dans la caravane. Et peut-être il y en a, ils osent moins quand même, même si vous mettez en place les conditions pour que tout le monde puisse parler. Bon, bah, il y en a toujours qui osent moins, qui à ce moment-là aussi peuvent venir vous voir. Il y a ces deux possibilités.
Ça, c'est l'idéal quand on arrive à faire ça, quand on intervient par exemple dans un collège, on met la caravane dans la cour. Et donc, on a des petits moments où on va intervenir dans les classes. Et tous les autres moments de récréation, midi et deux, etc., la caravane est ouverte. Et ils peuvent venir poser des questions. Alors, souvent, on déploie même dehors des choses pour laisser à l'intérieur une autre personne qui peut répondre aux questions en privé. Et ça, les collégiens, une fois que justement, voilà, qu'ils nous connaissent, que c'est un peu la gêne est un peu passée, bah là, ils vont rentrer par un, par deux, entre copains, copines, et venir poser tout un tas de questions en privé dans le petit sas de la caravane. Ça, c'est très apprécié. Et pendant ce temps, il y a toujours une de nous qui est dehors et qui anime un peu dehors, quoi, le reste de la cour d'école.
Et on se rend aussi dispo. Dans l'idéal, on aime bien justement garder du temps après les intervs où on part pas tout de suite et on reste disponible, parce qu'en fait, ça peut quand même faire remonter des fois des trucs un peu durs chez les jeunes. Et nous, on reste dispo pour être à l'écoute, pour en parler, et des fois même réorienter vers des numéros spécifiques dans le cas quand c'est des situations de violence. Des fois, c'est aussi juste des questions où il n'y a pas de réponse, et du coup, on peut aussi donner le numéro du planning familial, le numéro vert. Voilà, en tout cas, on a aussi de la ressource qui permet derrière, quand nous, on part, de ne pas les laisser sans réponse à leurs questions auxquelles nous, on n'a pas apporté de réponse, et d'avoir de la ressource pour après.
Oui, qui puissent être orientés derrière selon les types de questions ou les problématiques. Vous les orientez alors soit vers le planning, en cas de violence, il y a d'autres...
Oui, il y a des numéros spécifiques pour chaque situation. Enfin, pas tant que ça, en fait. Il y a le 119 pour le 114, le 800-08-11-11, qui est le numéro du planning, qui répond à plein d'aspects déjà, de tout type de questions. Ils sont vraiment très bien formés.
Après, on a aussi des contacts de sages-femmes dans le coin qu'on connaît, qui travaillent super bien. Ouais. Voilà, mais c'est vrai que souvent c'est le numéro vert, parce que on a vu un peu comment c'était fait, le numéro vert. Et en fait, quand les personnes appellent le numéro du planning, derrière il y a quelqu'un qui a un logiciel qui dit vous habitez où, en fonction, qui peut orienter vers des médecins, des sages-femmes, enfin selon la situation. Et donc c'est vraiment bien fait. Donc c'est celui-là qu'on préconise le plus quand même.
D'accord. On le rappelle, ce numéro. On va le rappeler aussi enfin, mais comme ça, il est dit plusieurs fois. Tu veux bien nous le redire, Nana ?
Alors, le numéro vert du planning familial, c'est 0800-08-11-11.
Ok, on le redira en fin d'émission. Alors, il y a un sujet qu'on va aborder plus tard, là, à 18h, avec Gersaint de Marceau, qui est au planning familial, qui vient pour une émission. Là aussi, plus spécifiquement autour de l'IVG. Mais comme pour l'IVG, qui est donc un droit aujourd'hui, mais qui est toujours à défendre, on le voit dans le monde, des courants réactionnaires remettent en cause. On le voit aux États-Unis, mais bon, on peut le voir aussi en France, même si en France, pour l'instant, ce droit n'est pas menacé au niveau de l'État, puisqu'il a même été mis dans la Constitution, enfin comme une liberté, pas comme un droit. On reviendra avec Gersaint sur cette nuance tout à l'heure. Mais pour ce qu'il en est de l'éducation à la sexualité, à la vie affective, je crois que vous teniez à affirmer que rien n'est jamais acquis et qu'il faut toujours défendre ça. Vous pouvez en parler un peu plus que moi, peut-être.
Bah, oui, enfin, on tenait surtout à affirmer que c'était pour nous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le droit à l'avortement, il a été acquis historiquement par des luttes. Et aujourd'hui, il faut continuer à se battre, parce que c'est jamais complètement acquis. Et d'ailleurs, nous, ce qu'on disait, c'est qu'on n'était pas du tout satisfaite de l'inscription à la Constitution, parce que ça parle de liberté et non pas de droit, et que du coup, ça implique pas la même chose, quoi. Donc, tu veux préciser, Andrea, peut-être la différence.
Ouais. Bah après, si Gerson en parle plus tard dans l'émission.
Ouais, c'est vrai.
Mais oui, enfin, en tout cas, que la différence, quand même, c'est que le droit donne... Enfin, il y a des moyens d'accès qui sont mis en place quand c'est un droit. Ou en tout cas, ça peut être revendiqué quand c'est un droit. Alors qu'une liberté, c'est plutôt individuel. Donc, voilà, c'est quand même différent.
Et ouais, et en fait, on voulait faire le parallèle avec le droit à l'éducation, qui est inscrit dans la loi, préconisé, etc., et qui ne s'applique pas, et qui est pour nous un droit à défendre, un peu de la même manière que celui du droit à l'avortement, quoi. Voilà, surtout faire le parallèle entre les deux, et ces deux droits qui sont constamment en danger par les mouvances réactionnaires qui ont des formes différentes, mais qui sont bien présentes, quoi.
D'une part, il y a l'accès, en fait, l'accès à cette éducation ou l'accès à ces droits. Et d'autre part, on le voit quand même beaucoup dans une période où de fausses informations circulent très, très vite. Voilà, d'avoir accès à une véritable information en termes de vie affective et sexuelle, et parce que beaucoup de choses fausses peuvent être colportées, notamment via Internet. Est-ce que vous êtes confronté à cette, je dirais, cette offensive réactionnaire
Ouais. Et on le sent de plus en plus. Il y a des groupes qui se constituent et qui s'organisent, dont le but, c'est vraiment d'être contre l'éducation à la vie affective et sexuelle, notamment en milieu scolaire. Il y a un groupe qui s'appelle les Mères Louves, qui est en train de prendre de l'ampleur et qui s'organise de manière totalement, entre guillemets, légale. Alors que, encore une fois, vu que l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'est un droit et c'est dans la loi que ça doit faire partie des programmes scolaires, normalement, c'est même interdit, du coup, de s'organiser pour aller contre ça. Donc c'est un peu inquiétant, quand même, de voir que ça devient aussi facile de s'organiser autour de cette revendication-là. Donc, nous, on continue de... Enfin, on a un discours bien rodé et on est habitué aussi à avoir des réactions, donc ça nous inquiète pas, on sait comment réagir. Mais c'est pas forcément rassurant de voir que ça prend de l'ampleur. Et je pense que ça va aussi avec de la mésinformation et des discours qu'on pourrait dire complotistes, où en fait c'est de la fausse information. Enfin, des fois, il y a vraiment de la fausse information qui est transmise là-dessus. Notamment, on a pu entendre que l'éducation à la vie affective et sexuelle, c'était pour permettre la pédocriminalité, que ça soit plus accessible. Enfin bon, voilà, c'est vraiment des fois des discours que nous, on trouve complètement absurdes, mais en tout cas, il y a des personnes qui adhèrent et qui y croient. Donc c'est un peu flippant.
Oui, d'ailleurs, ce collectif des Mères Louves a émergé beaucoup au moment du Covid, en colportant aussi sur le Covid des fake news. Alors, on arrive au bout de cette émission. Est-ce que vous avez des choses qu'on aurait oublié de dire, que vous voulez rajouter ?
On voulait donner nos contacts.
Ah oui, bien sûr, il y avait les contacts, évidemment.
Et parler d'un prochain événement. Du coup, Nana, tu veux en parler ?
Oui, complètement, carrément, j'ai envie d'en parler. Oui, donc si vous avez envie de nous rencontrer, et aussi si vous avez envie de voir un super spectacle qui est certes pas forcément évident parce que ça parle des violences sexuelles, donc c'est plutôt un spectacle qui est pour les adultes, déconseillé au moins de 15 ans. C'est le 8 mars à 17h30 à Saint-Jean-du-Gard à la salle Stevenson. On propose, nous, la Sexomobile, un événement à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Et on vous réserve aussi tout un tas de surprises, en l'occurrence des stands surprises. On aura aussi un stand d'information, un peu type de ce qu'on propose à la caravane. On a également des chants polyphoniques queero-féministes et des DJs qui animeront plus tard dans la soirée au niveau musical, après ce spectacle que je conseille, enfin que je recommande vivement.
Quel titre du spectacle ?
Alors c'est le spectacle Trou de la compagnie Ultranix, voilà, qui nous viennent du sud. De manière très large. Ils sont plusieurs, donc je ne veux pas me tromper là-dessus. Mais voilà, c'est vraiment... venez nous rencontrer. Et si vous voulez nous contacter.
Ben oui, alors je me dis que des auditeurs, auditrices vous auront entendu. Peut-être qu'ils sont dans des lieux où ils auront envie de vous faire intervenir. Et donc, comment vous joindre?
Alors, on a une adresse mail sur laquelle vous pouvez nous écrire, qui est la sexomobile, tout en attaché en minuscule. Je l'appelle au cas où quand même. lasexomobile@outlook.fr. Et on a aussi un numéro de téléphone, le 07 44 95 11 83.
Ok, vous retrouverez ces informations sur notre site internet, tous les contacts des invités, aussi bien pour le planning familial que pour la sexomobile, sur la page de notre site consacrée donc à cette journée des 50 ans de la loi Veil. Alors avant de terminer, et puis c'est vous qui allez terminer en nous présentant le dernier morceau qui conclura cette émission, mais moi je vais un petit peu rappeler la suite de cette journée sur Radio Escapade avec à suivre à 17h30. Non, d'abord, c'est pas dans le thème de la journée, mais à 16h, il y a une nouvelle émission et c'est la première émission, donc Do You Like Bass, qui est donc à découvrir à 16h. Pour revenir sur notre thématique, à 17h30, il y aura un documentaire de Sarah Monimar et Nina Almberg qui a été fait par Arte Radio, qui s'appelle Speculum Party, donc autour d'interviews de membres du MLAC, le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, donc des années 70. Et puis, donc, pour aller dans le sens de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est toujours un droit à défendre, ce documentaire est fait avec une alternance donc de ces militantes qui témoignent de leur expérience et avec en contrepoint des petits sons sur des manifs de catholiques intégristes opposés à l'avortement, donc pour montrer que c'est toujours un droit à défendre. À 18h, ce sera un escapadez-vous, comme on l'a dit tout à l'heure, avec Gersande Marceau du planning familial de l'Hérault, où on parlera plus spécifiquement donc, du droit à l'IVG et de l'application de la loi et d'un outil, enfin plutôt d'une étude qui a été faite par le planning familial en 2024, qui est le baromètre de l'accès à l'IVG, donc qui fait un point sur l'accès à l'IVG en France aujourd'hui. Ensuite, ce sera l'agenda culturel de 19h, suivi à 19h30 d'un reportage d'Antoine sur le tournage du court-métrage « Lettre à Elisabeth » par la troupe aux étoiles au Vigan, court-métrage qui est donc projeté demain au cinéma L'Arc-en-Ciel à Ganges à 18h30 à la suite de la manifestation qui a lieu devant la clinique et jusqu'à la mairie de Ganges. À 21h, une playlist spéciale de Frères de Chaussures et à 22h, un docu-fiction de Julie Perra qui s'appelle « La décision ». Je vais vous laisser conclure l'émission avec la musique de fin et donc la présenter.
Oui, et ben donc ça s'appelle Mon corps c'est mon corps, c'est une petite chanson pour les enfants, très entraînante, vous allez voir, un peu rigolote. Et en fait c'est un clip d'éducation qui vient d'un programme québécois. Et voilà, donc on l'aime beaucoup aussi parce que bon, elle est un peu rigolote, elle est un peu entraînante. Vous pourrez la chanter avec vos enfants. Mais aussi, ce programme il vise à faire de l'autodéfense pour enfants. Et voilà, on trouve ça important de donner du pouvoir un peu aux enfants, quoi. Et voilà, les paroles sont simples et efficaces.
Ok, ben on y va. C'était Fab en technique et qui va nous envoyer tout de suite ce dernier morceau.
Mon corps peut sauter. sais ce que ça me fait quand je